Parlez-moi.
Alors aujourd'hui, on reçoit Benjamin Veil. Benjamin, tu es philosophe et contrairement à plein d'autres qui dénigrent un peu le rap, toi, tu t'intéresses au rap. Tu écris sur le rap. C'est même une de tes matières principales. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Bah déjà parce que ça fait partie de ma génération et que ça fait partie de mon univers et de mon bagage culturel, en fait. Et que je pense qu'on fait toujours de la philosophie avec l'air du temps. On est censé faire de la philosophie avec l'air du temps et à partir de ce qu'on est aussi. Donc, comme j'ai toujours considéré que ça pensait aussi bien d'un côté du périph' que de l'autre, et ben, j'avais envie de mélanger un peu les deux et de montrer que finalement, bah, être rappeur, ça ne veut pas dire être inculte, précisément. Donc ça me paraissait être d'autant plus important que quelqu'un qui a un bagage universitaire philosophique, même si je n'ai pas fait que ça, hein, mais en tout cas, je ne suis pas une universitaire, mais que d'avoir ce bagage-là permettait quand même un peu de faire des liens et de montrer que cette culture était bien plus intelligente que ce que les intellectuels voulaient bien en faire.
Est-ce que si c'est une manière de t'intéresser à des questions sociales, hein, parce que j'ai vu que c'était aussi une autre de tes spécialités.
Alors, j'ai envie de dire, les deux questions, elles se rejoignent, mais elles sont pas, c'est pas des questions de, genre, d'objets intellectuels de curiosité, c'est plutôt lié au fait que bah, moi j'ai grandi en banlieue aussi, j'ai quand même grandi dans le 91, donc j'ai grandi à certaines époques aussi, j'ai été aux États-Unis, j'ai vu des choses, enfin... Voilà, j'ai aussi eu une certaine éducation politique, enfin, je pense aussi que c'est important en fait, et donc bah, dans cet univers-là, pour moi en fait, le social c'était une évidence, c'est pas tellement quelque chose qui tout d'un coup m'a intéressée en me disant « Ah oh, tiens, si je me penchais sur ce sujet bah, », non, c'est pas très hors sol, c'est plutôt la question de bah, « c'était mon environnement, c'était ce dans quoi je grandissais », puis il se trouve qu'en plus je me suis retrouvée donc, à passer aux États-Unis, je viens du 91 et je me suis retrouvée dans le 6e arrondissement à Paris. Donc ouais, le choc des cultures, il était là, il fallait que moi je fasse des ponts quelque part, quoi. Il fallait au moins que je trouve des passerelles. La philo en était une et le rap en est une aussi.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as rencontré le rap ? Parce qu'effectivement, bon, tu nais en banlieue, etc. Mais après, on se dit, tu vas à la Sorbonne, j'imagine. On se dit, bon, le rap à la Sorbonne, c'est pas forcément les deux mêmes milieux. Toi, a priori, c'est un voyage aux États-Unis, si j'ai bien vu.
Alors ouais, c'est vrai que je découvre le hip-hop comme tout le monde, parce que je suis quand même quelqu'un qui est né en 79, donc d'une certaine génération aussi, où on découvre des trucs bizarres comme ça à la télé, de temps en temps, comme ça, qui sort un peu nulle part. On écoute Benny B en soirée, voilà, ça s'arrête là. Hein. À l'époque, ça s'arrête là. Et puis, il se trouve que je vais, moi, partir un an aux États-Unis en fin de troisième, donc j'ai 15 ans, en 94. Et je me retrouve à être dans une famille qui est originaire du Queens, donc à quitter le Queens pour des raisons un peu mafieuses, mais qui, bah oui, c'était un peu le jeu là-bas aussi, mais qui donc, on retourne dans le Queens au moins un week-end par mois voir la famille. C'est une famille d'origine italienne, donc on est vraiment bah, dans le Queens dur, quoi, en 94-95. Je sais pas trop ce qui s'y passe, mais je vais beaucoup dans des soirées qui s'appellent des block parties. Je pars là-bas, en fait, avec comme CD sous le coude. En fait, j'ai beaucoup plus, on devrait plus le dire aujourd'hui, et féministe que je suis, je devrais pas le dire, mais Noir Désir. Enfin, voilà, à l'époque, on est en 94, voilà. Donc, je pars avec du Noir Désir, du Nirvana, parce que Kurt Cobain vient de mourir, hein, quand même. Hein,
ouais,
faut
ouais.
Pas oublier ça. Hein. J'ai gardé les cheveux gras pendant 3 semaines, hein, en commémoration. Et donc, je pars avec ça, mais je vais revenir avec Cypress Hill, avec les Fugees, avec le Wu-Tang, avec Nas, donc avec des choses complètement différentes, en fait. Mais que j'ai vu là-bas, que j'ai découvert là-bas, et je sais pas que ça a commencé à prendre en fait réellement en France, parce que quand moi je reviens pas dans le 91, je reviens dans le 6e arrondissement de Paris.
Mmh.
Et là, c'est vrai que, bah, en plus, heureusement quelque part, parce qu'il y a qu'à Saint-Michel que se joue la haine, parce qu'en 94-95, j'arrive, il est en juin-juillet, ça fait longtemps qu'il est sorti.
Ouais, ouais.
Donc je vais découvrir la haine à ce moment-là, et là je me dis, il se passe quelque chose aussi en France. J'ai été quand même du côté des New-Yorkais, hein, faut pas oublier. J'ai découvert, moi, la côte ouest en revenant en France.
Ouais.
J'étais très côte est.
Bah, en étant dans le Queens, oui,
c'est
logiquement.
Logique, ouais. Voilà. Donc, et puis il y avait un truc, même si on avait quand même le droit, par exemple, à du Cypress Hill, parce qu'on allait on était en Pennsylvanie, donc on était un peu plus du côté des rednecks, mais ça n'empêche que c'était pas, voilà, on n'écoutait pas Snoop et on n'écoutait pas Tupac, ou très peu en fait.
T'as découvert du rap, est-ce que vraiment c'est un choc ? Parce que tu dis, bon, j'écoute du rock, comme un peu nous tous à cette époque, on cherchait, on savait pas trop tout ça, etc. Et puis, enfin, moi, on a à peu près le même âge, c'est pour ça que je te dis ça. Moi, je sais que je l'ai pris en pleine gueule, vraiment. J'ai écouté NTM pour la première fois, j'ai fait « Waouh !» Et après, j'ai plus rien écouté d'autre que du rap. Bah, est-ce que toi, c'est un peu le même schéma ?
Bah, le choc, et j'ai envie de dire le choc qui vient faire table rase de tout le reste, ouais. C'est sûr qu'après ça, et d'ailleurs, on fait partie d'une génération qui n'écoutait que du rap.
Ouais.
Au point même que moi, j'ai été choquée quand j'ai emmené au concert d'NTM en 2008 des petits jeunes pour fêter leurs 16 ans, là, qui revenaient de la Gay Pride, et donc en Techno House. ça me paraissait complètement sorti de nulle part qu'ils fassent le pont entre les deux mondes, quoi. Alors que pour votre génération, là je m'adresse à l'ingé son qui est quand même beaucoup plus jeune, je me permets, hein, c'est une évidence en fait, voilà, ces liens-là. Alors que pour nous, c'était un tel choc que vraiment ça faisait table rase de tout le reste,
ouais,
quoi.
Exactement.
Par contre, là où on a eu une éducation au rap, en fait, sans le savoir, c'est les chansons à texte. Mmh. En France, on a quand même une tradition de la chanson à texte. Moi, par exemple, ma grand-mère me faisait écouter Renaud depuis que j'étais petite. Alors, bon, Brassens aussi, même si aujourd'hui, d'un point de vue sexiste, on devrait lui dire qu'il est tout aussi rappeur que certains. Hein. Voilà, bon, moi, j'ai jamais été une grande fan de Gainsbourg, que j'ai toujours trouvé très gênant, hein, je tiens à le dire, mais qui, n'empêche, était quand même aussi sur du texte. Enfin, voilà, il y a quand même toute cette tradition dans la culture franchouillarde, j'ai envie de dire, quand même, mmh. qui est quand même du côté de la chanson à texte, et que c'est pas anodin, en fait. C'est quand même pas anodin, ça nous a éduqués, quand même. Enfin, le choc, il est venu de là, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends même le rock que j'écoutais, Noir Désir, c'était de la chanson à texte.
Ouais, bien
quand
sûr.
On prend Marlène, qui était une de mes chansons préférées de l'époque, on n'est pas loin du rap, en fait. En tout cas, on n'est pas loin des thématiques du rap. Moi, j'étais, par exemple, plus Soldat Louis que Indochine, qui était plus de la chanson à texte aussi. Mmh. Alors, breton, hein, voilà, chanson à texte. Avec un peu d'engagement, un peu de social, un peu, voilà, qui était déjà présent, en fait.
Et quand tu reviens en France, donc tu connais pas le rap français ou très peu. Dans les années 90, il y avait beaucoup plus de textes, peut-être, qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est ça que tu retrouves quand tu reviens à Paris ?
Bah ouais, en fait, j'ai besoin de comprendre quel est le message français, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en plus, voilà, j'étais vraiment sur l'époque du message, moi, quand j'y étais. Donc la question politique est très importante.
Et puis, bah, plein de temps.
Et moi, je reviens, j'ai 15 ans, j'ai vécu un an aux États-Unis dans une école publique où il a fallu que je fasse le salut au drapeau tous les matins. Et où on m'a demandé si la France était encore un pays communiste. Je vous rappelle que c'est le moment où Chirac a été élu.
Ouais.
Où on m'a demandé aussi si on avait le droit de s'épiler les jambes, nous, les Françaises. Enfin, donc la dimension politique est très présente, en fait, dans ma tête. Pour moi, il y a un truc de fight the power, en fait, qui est évident. Donc, quand je rentre, je vais écouter je vais aller voir La Haine, voilà. Forcément, en fait, au démarrage, je vais sur Assassin.
Mmh. Oui, logiquement.
J'ai une culture politique. C'est pour ça aussi que j'ai dit que, voilà, j'ai une éducation politique familiale aussi qui est importante, donc de l'engagement. Donc, forcément, il y avait quelque chose, je vais d'abord sur Assassin. Et puis, assez vite, il y a un moment où je m'en détache un peu parce que je trouve que le discours est un peu trop formaté, un peu trop trotskiste, en fait. Enfin, voilà, pour ceux qui savent. même si j'ai beaucoup aimé, hein, l'Odyssée suit son cours, et j'ai beaucoup aimé, voilà, moi j'ai beaucoup suivi tout le développement avec le MIB, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose où à un moment j'ai besoin de revenir à quelque chose de plus. En tout cas, qui me paraît moins intello, étrangement. Voilà, qui revient plus à quelque chose de la rage. Donc c'est vrai que je vais plus aller chercher du ministère amer, du MNTM, alors pour le coup qui raconte des choses, hein, mais qui raconte des choses autrement. Qui sont plus sur un, voilà, comme Joe Starr le disait à l'époque, sur un constat d'urgence, ou comme pouvait le faire Passy et Stomy, c'est-à-dire nous parler de Frantz Fanon tout en nous disant que leur basket blanche allait encore morfler, quoi. Donc ces décalages là qui me paraissaient hyper intéressants aussi, et qui ont continué, en fait, de me motiver. Et quand j'ai commencé à mes études de philo, parce qu'en fait je fais des études de philo en même temps que j'écoute du rap, en fait, déjà, enfin, voire même après, j'écrivais même mes cours de terminale en rap, en fait, enfin, je les révisais comme ça, en fait. Donc j'ai des techniques socratiques hyper développées, mais je, même, voilà, je manque fondamentalement de bon rythme et de bon flow, donc personne ne m'entendra rapper. dommage. Mais c'est vrai que voilà, on s'amusait à l'époque, puis il y avait quelque chose d'évident. Ben, j'avais toujours aussi un posca sur moi, enfin voilà, enfin, la danse était présente aussi, enfin, c'est-à-dire qu'on mélangeait tout, quoi.
Et justement, comment tu te dis, je vais réussir à mettre le rap dans la philosophie ou la philosophie dans le rap, appelons ça comme, enfin,
dans, bah,
on
ne
sait pas
deux.
Vraiment dans quel sens, mais à quel moment tu te dis, ça va devenir un sujet d'étude au cours de ma carrière ou de ma vie?
Alors, en fait, je ne me le suis jamais dit comme ça. Comme
c'est
je me suis
naturellement.
En fait, je ne me suis jamais rien dit comme ça, étant donné que la notion de carrière a été très, très, très loin de moi toute ma vie, en fait. C'est-à-dire que poser la question de la carrière, non, j'ai fait des choix au regard des opportunités qui se présentaient à moi et du contexte de vie dans lequel j'étais. C'est pas la même chose. Enfin, voilà, j'ai pas pensé en développement, en perspective, dans 5 ans je vais être là, dans 6 ans je vais être là. Non, c'est pas ça l'idée. Donc le rap, en fait, il était présent, il m'accompagnait. Le hip-hop, d'ailleurs. Je devrais même pas dire le rap, parce que c'est vraiment le hip-hop à l'époque qui m'accompagne. Et je me donne comme petit défi personnel, dans chaque dissert, de citer au moins Marx, au moins un rappeur. Voilà, c'était le truc de l'époque. Voilà, je m'amusais bien. Et voilà. Et donc, j'ai réussi, plus ou moins. Donc, je pense que la plupart des profs ne savaient pas de qui je parlais.
Ouais.
Mais comme ça collait à peu près.
Mais il y avait un sens.
Voilà. Donc, à partir du moment où il y avait un sens, ils ne pouvaient rien m'en dire. Donc, ils ne savaient absolument pas de qui je parlais. Enfin, voilà. Mais quelque part, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça a un peu ouvert quand même 2-3 portes, en fait. Parce que finalement, ça a permis.
Peut-être qu'ils ont cherché.
Ils ont été obligés d'un peu chercher. Certains sont venus m'en parler.
je sais que plus tard, certains sont venus me dire que, bah oui, enfin, quand j'ai été plutôt en maîtrise, en DEA, enfin tout ça, quand on commence à se parler un peu plus avec les profs, en fait, ils ont commencé à me dire, ouais, ça nous avait un peu intrigué pour les. Voilà, on avait pas mal de chargés de TD qui nous disaient, c'est qui ce gars, c'est qui ce truc, est-ce que vous connaissez, enfin, et en fait, à chaque fois, c'était tes copies. voilà. Donc, c'était assez marrant, voilà, notamment en histoire des sciences, enfin, voilà, sur des trucs où j'essayais de placer quand même justement les rappeurs qui avaient beaucoup travaillé, notamment sur la science, sur les sciences, les développements de sciences, parce que ce qu'on oublie aussi, c'est quand même qu'à l'époque, les textes de rap, la plupart des rappeurs ont fait des études supérieures, hein, quand même. Donc, il y avait énormément de références nichées, cachées. Quand je dis nichées, c'est parce qu'elles étaient parfois en fait, cachées derrière des formulations qui pourraient paraître très claires. Mais en fait, en réalité, il y avait une putain de densité, quoi, en fait, à chaque fois. Donc, de la matière à réfléchir, il y en avait plein, en fait. Et l'objet, pour moi, c'était de venir démontrer que le philosophe et le rappeur, finalement, ont le même type de posture face à la vie, à savoir essayer de saisir l'air du temps, de la formuler de manière assez précise, en fait, pour pouvoir raconter quelque chose et conceptualiser quelque chose du monde, en fait. Et de savoir s'étonner de l'ordre établi aussi. Voilà, ça, pour moi, c'est ce qui relie le philosophe et le rappeur. Et comme moi, mon objectif à moi, c'était pas de faire de la philo pour créer du concept à la Deleuze, ça franchement, je laisse ça aux métaphysiciens tranquilles, aux grands intellos, moi ce qui m'intéresse, c'est l'air du temps, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde, c'est d'essayer de sentir un peu ce qui s'y joue et qui n'est pas une réservée à la sociologie qui, quelque part, décrit les choses mais ne cherche pas forcément à donner des explications. Voilà.
Est-ce que ça, c'est toujours vrai avec le rap actuel ? On a l'impression, c'est pas un jugement, mais toi et moi, on est un peu plus vieux, que peut-être il est un peu plus pauvre. Je mets ça entre des grosses guillemets.
Ouais. Parce qu'en fait, je pense pas qu'il soit appauvri. Je pense qu'il s'est développé à certains endroits, notamment en termes de musicalité, parce que c'était ce qui avait été un peu mis de côté, il faut pas l'oublier non plus, pour recentrer sur le texte. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, quand on avait les rockers qui nous disaient « c'est pas de la musique », on leur disait « assieds-toi, écoute le texte », et ils disaient « ouais, ok, c'est pas mal
bon, ». Mais ça manquait de musicalité.
Mais ça manquait de musicalité. Ouais, en tant que meuf danseuse, je peux le dire, on était les seuls à essayer de danser dessus, et franchement, les ricains nous faisaient plus danser, c'est vrai. Voilà. Mais on essayait quand même. Mais il y avait un truc très, très intello des gars qui ne bougeaient que la tête, en fait. C'était un truc, le corps n'existait plus, quoi, en gros. Et donc, moi, il y a quelque chose là, en tout cas sur la nouvelle génération, qui vient réinvestir quelque chose de l'émotionnel et du corporel, ce que je trouve hyper intéressant aussi, même d'un point de vue intellectuel. Voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça ne s'est pas appauvri. Ça a pu se simplifier dans les formulations. Mais je trouve que justement tout le développement autour de la punchline, qui est donc en soi une phrase qui se comprend en elle-même et avec énormément de développement et donc de strates de compréhension. Bah, le développement de cette punchline, notamment avec les X-Men, donc on est après 2000 en fait déjà, qui vont vraiment pousser la punchline jusqu'au bout, c'est-à-dire en faire des textes en entier avec des phrases qui tiennent en elles-mêmes, qui vont être ensuite développées par des boobas, par la trappe, enfin voilà, qui vont être renforcées par les moments actuels, bah, y a quelque chose aussi que je trouve hyper intéressant. En termes de profondeur, parce que c'est savoir dire peu. En fait, c'est créer du concept, quelque part. Il y a quelque chose de l'ordre de la création du concept. Le concept étant une idée symbole qui nous permet, en la dépliant, d'avoir plein d'images différentes. Donc, il y a quelque chose là-dedans de la conceptualisation, du concept presque au sens de la com, du slogan aussi, mais qui est intéressant. Et qui doit pouvoir se travailler, en tout cas se réfléchir, pas simplement sur le mode médiatique au sens ou capitalistique, c'est-à-dire combien on gagne avec ça et combien on en fait ou combien on économise. Voilà. Il y a aussi le qu'est-ce que ça raconte de l'air du temps. Donc je ne dirais pas que ça s'est appauvri, je dis que ça continue de surfer sur l'air du temps et on est dans une ère où 140 caractères, où c'est du oui ou c'est du non, on a beaucoup de mal avec la complexité, avec la nuance, avec la subtilité. Donc, le rap, en fait, quelque part, s'en inspire. Mais moi, je trouve, de temps en temps, essaye de remettre un peu de subtilité, en fait, de nuance, même si c'est pas toujours compris, même par les auditeurs de rap.
Pour finir, tu as écrit un livre.
Au Mac citoyen, citoyenne.
Au Mac citoyen, citoyenne. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ? Qu'est-ce que tu as voulu faire avec ce livre ?
Alors, c'est un livre collector, hein. Enfin, déjà, il faut le dire dès le départ, parce que c'est pas la peine, vous le trouverez plus. Mais en même temps, voilà, c'est un coup d'essai apologique, comme on l'a appelé d'ailleurs. Et en fait, l'idée, c'était justement de démontrer dans ce livre, à travers la culture hip-hop et la manière dont justement, quelque part, à travers mon parcours qui a permis de faire des ponts entre chacun, de surtout démontrer comment, quand la culture hip-hop se greffe en France, parce qu'elle vient des États-Unis, mais elle va se greffer en France, et quand une culture voyage, comme n'importe qui, en fait, et ben, être dans son bagage, elle va prendre des choses de son origine, mais elle va aussi intégrer des éléments de sa terre d'accueil, qu'on le veuille ou non. C'est pour ça que la notion d'intégration est en fait une notion complètement caduque, parce qu'en fait, parfois, ça se fait malgré nous. Donc,
bien sûr.
Et donc il y a quelque chose là-dedans qui fait que il y a une dimension républicaine en fait, précisément en fait au rap français, au hip-hop français, mais au rap français en particulier, alors que c'est le domaine culturel qui est le plus décrié comme étant anti-républicain.
Mmh.
Voilà. Et c'est de montrer que finalement qu'il y a une tradition en fait, que parfois le rap et le hip-hop, mais surtout le rap, peut être parfois beaucoup plus républicain que tous les politiques qui se présentent actuellement aux élections.
Ah oui, voilà. Ça c'est sûr.
C'était l'idée. Et dans ces valeurs phares, hein, en plus, hein, sans forcément aller jusqu'à l'universalisme, tout ça, là, mais voilà, parce que ça n'a jamais été une question en fait républicaine. Voilà, c'est important de le rappeler quand même.
Et enfin, j'ai noté une phrase que j'ai trouvée sur toi, que tu as dite apparemment. Tu as dit « le rap m'a sauvé ».
Ouais.
Donc ça, c'est quand même assez fort. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Bah, je vais dire déjà que je ne suis pas la seule, en fait. On est nombreux. Et il y a une vraie dimension thérapeutique au rap aussi, et c'est pas pour rien que je parle de la dimension corporelle non plus. Et d'ailleurs, j'ai vécu avec Fab et dans son émission là, Underground Explorer, justement, comment finalement, bah, ça vient compléter presque la psychanalyse à certains aspects qui restent pour moi trop intellectuels sur de certaines dimensions, parce qu'il y a quelque chose du côté du corps, du côté de l'archaïque, en fait, que ça peut réveiller. Et comme toute personne, j'ai envie de dire, on a tous des parcours avec des traumas, tous autant qu'on est. J'ai pas besoin de les exposer parce que pour le coup, je trouve ça presque un petit peu nombriliste en fait. Donc voilà, dans une ère où tout le monde expose ses traumas, j'ai pas envie en fait. Voilà. Donc voilà, c'est désolé. Mais on en a tous.
Ça veut dire
voilà.
Que la musique, elle t'a.
Mais par contre, cette culture, cette approche du monde, cette façon de d'accepter l'autre tel qu'il est, parce que pour moi, il y a une dimension hyper inclusive aussi. À quelque chose de thérapeutique, au sens où ça permet de dépasser, justement, de rendre beau son trauma. Voilà. Moi, je crois à cette dimension de la sublimation aussi du trauma, qui n'est pas que quelque chose de mauvais. On a tous des traumas, tous autant qu'on est, on ne peut pas les éviter. En tant que parent, je suis bien placée pour vous le dire, que malheureusement, on ne peut éviter aucun trauma à nos enfants. Voilà, ils vont les vivre d'une manière ou d'une autre. Nous-mêmes, on en a vécu. L'enjeu, c'est d'accompagner, d'écouter, pas juger. Voilà. Mais à partir de là, et c'est ça que le rap fait. Moi, j'ai toujours trouvé, voilà, que ça soit. Allez, et je vais donner quelques exemples parce que je trouve, enfin, voilà, que ça soit des NAC quand il fait du Elodie, que ce soit même Sadek avec des petits loups, enfin voilà, ou Fianso. quel qu'il soit, il y a quelque chose, en tout cas, d'une espèce de d'empathie, en tout cas, pour la souffrance d'autrui, qui est quelque chose qui me paraît hyper important, en fait, en termes de thérapeutique. L'empathie sauve. C'est quelque chose qu'on oublie, en fait, mais le fait de pouvoir dire tu n'es pas seul, je te comprends. Ou en tout cas, si ça m'était arrivé, ça serait horrible aussi. En gros, juste ça, en fait. Moi, je serais dans le même état que toi si ça m'était arrivé. Et c'est pas de la victimisation. Faut arrêter avec ce terme, vraiment. C'est-à-dire, c'est écouter la souffrance de l'autre. Et je trouve que s'il y a un domaine culturel qui prend à bras-le-corps la souffrance humaine, c'est quand même le hip-hop. Et justement, c'est ce qu'on essaye de développer dans le média Haya, H-I-Y-A, point d'exclamation, hein, qui est le média de Abdallah Sleiman qui l'a créé, qui est un graffeur à la base, mais qui est aussi un entrepreneur. Et qui, en fait, donc, notre objectif, voilà, en gros, notre mantra, c'est le média de la culture du 21e siècle, parce qu'on part du principe que la culture hip-hop, c'est la culture du 21e siècle, mais avec aussi tous ces développements et ces hybridations. C'est-à-dire qu'on n'est plus que sur la culture telle qu'on la connaissait, mais dans ses développements. Et l'idée, c'est approfondir la culture, enfin approfondir la réflexion et élargir la culture. Voilà, en gros. Donc de pouvoir justement sortir un peu des représentations un peu classiques du game, sortir un peu juste des sorties, des chroniques un peu classiques, et plutôt d'aller chercher, de poser les questions, en fait, pour faire évoluer le mouvement et continuer de lui permettre de continuer de gagner en cohérence, en crédibilité, en légitimité et surtout en intelligence.
Je crois que c'est une belle conclusion. Merci beaucoup.
Merci à toi. Merci à vous, d'ailleurs.
Génération Hip-Hop Soul Radio. Génération.